France Inter, franceinter.com.
Entrée d'Algérie, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous au plateau des Glières, par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger un gouvernement de salut public seul capable de sauver.
ans d'histoire. Le 13 mai 1958, à l'appel, on vient de l'entendre, de plusieurs organisations de pieds noirs, la population d'Alger était invitée à rejoindre le monument aux morts pour rendre hommage à trois soldats français enlevés et exécutés par le FLN. Mais il s'agissait aussi d'exiger de Paris la mise en place d'un gouvernement décidé à garder l'Algérie française. Quatre ans après le début de la guerre qui y avait commencé en 1954, les pieds noirs craignaient toute politique qui conduirait à l'indépendance de ce pays colonisé par la France depuis 1830. Mais ce 13 mai 1958 à Alger, aucun d'entre eux n'imaginait que leur révolte allait devenir une révolution provoquant la chute de la 4e République, le retour au pouvoir du général de Gaulle et la naissance d'un nouveau régime dans lequel les Français vivent aujourd'hui depuis 50 ans.
La ville, presque calme au début de l'après-midi, quasiment morte, s'est réveillée brutalement à 15h et c'est par centaines, par milliers que des groupements patriotiques, des associations, des collégiens, des lycéens affluent maintenant vers ce boulevard La Ferrière, vers ce plateau des Glières.
Maintenant, c'est un camion sur lequel ont pris place des parachutistes, des territoriaux et des civils portant des drapeaux d'anciens combattants, je pense, qui montent vers le monument aux morts, escortés par une véritable marée de personnes, de jeunes gens, de femmes, d'enfants. On voit les têtes qui bougent et qui s'avancent le long du boulevard La Ferrière sur le chemin du monument aux morts. C'est véritablement très impressionnant.
Guy Pervillier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes historien, professeur à l'université de Toulouse-Montmirail et spécialiste de la guerre d'Algérie pendant laquelle s'est déroulée cette manifestation que l'on vient d'entendre. C'était le 13 mai 1958, il y a 50 ans, jour pour jour et à peu près à l'heure où nous parlons. Alors, dans un livre sur la guerre d'Algérie, publié sous votre direction, vous rappelez que cette manifestation a marqué un tournant non seulement dans l'histoire de la guerre d'Algérie, mais aussi dans celle de la France contemporaine, puisqu'elle est à l'origine, au fond, de la 5e République dans laquelle nous nous trouvons, Guy Pervillier.
Oui, en effet, le 13 mai 58 est un événement qui a eu un double enjeu, une double signification. D'une part, c'est un coup de force fait par des militants français d'Algérie, de l'Algérie française, pour obtenir un gouvernement qui soit consacré entièrement à la sauvegarde et à la pérennité de l'Algérie française. Ils ne l'ont pas obtenu immédiatement, puisque le coup de force qu'a été la prise du gouvernement général d'Alger par la foule a eu pour effet de provoquer, au contraire, l'investiture du gouvernement formé par Pierre Pflimlin, leader du MRP, et en lequel il n'avait pas de confiance. Et il a fallu 15 jours de crise pour que finalement le général de Gaulle, qui avait quitté le pouvoir depuis 1946, parvienne à y revenir.
Alors cela dit, il ne s'agissait pas pour ces manifestants du 13 mai 58 à Alger de renverser la 4e République, vous venez de le dire, mais de mettre en place, que soit mis en place un gouvernement qui garantisse le maintien de l'Algérie française. Il s'agissait aussi d'ailleurs de rendre hommage, on l'a un peu oublié, à trois soldats français dont le FLN avait annoncé l'exécution quelques jours plus tôt. Mais alors justement, vous l'avez dit, Guy Pervillier, cette manifestation, cet hommage à ces trois soldats français rendus au monument aux morts, ça dégénère. guerre et on prend, vous l'avez dit, la foule prend d'assaut le gouvernement général. Il faut peut-être rappeler, parce que cet événement est lointain, et ce qu'était le gouvernement général. C'était vraiment un symbole à Alger.
Oui, le gouvernement général, eh bien, c'était le siège de tous les services centraux de l'administration de l'Algérie. Donc l'Algérie qui était divisée depuis, disons, 1848 en trois départements dont le nombre a été multiplié par des réformes à partir de 1955-56, donc pendant la guerre d'Algérie elle-même. Et donc ce siège du gouvernement général, c'est-à-dire de l'administration du gouverneur général de l'ensemble des trois départements, a été rebaptisé, enfin, disons, pas dans l'usage courant, puisque l'expression gouvernement général ou GG est restée, mais depuis le début de 1956, il n'y avait plus un gouverneur général à la tête de l'Algérie. Le dernier d'entre eux a été Jacques Soustelle en 1955, mais depuis 1956, il y avait un ministre de l'Algérie, plus exactement un ministre du gouvernement français, mais chargé de l'Algérie et résident en Algérie. Et ce ministre de l'Algérie s'appelait Robert Lacoste, membre du Parti socialiste. Mmh. Mais en mai 1958, il est obligé de quitter son poste parce que la France n'a plus de gouvernement depuis la chute du gouvernement de Félix Gaillard le 15 avril 1958. Et le Parti socialiste SFIO, auquel appartient Robert Lacoste, a décidé de ne plus participer, essentiellement, pour deux raisons. D'une part, parce qu'à la suite des diverses crises ministérielles, l'axe des majorités gouvernementales évolue de plus en plus vers la droite. Et donc les socialistes ont de moins en moins de poids dans ce gouvernement, qu'ils ne dirigent plus. Et d'autre part, les socialistes sont de plus en plus divisés par la contestation de la politique suivie par le parti, donc contestation venant d'une minorité de gauche qui juge cette politique contraire aux principes du socialisme. Mmh. Et c'est pour éviter cette crise de plus en plus grave qui menace de faire éclater le parti qu'il décide de ne plus participer au gouvernement. Donc le résultat, c'est que Robert Lacoste, après avoir hésité, après s'être vu proposer de rester par le directeur de l'Écho d'Alger, mmh, Alain de Sérigny, eh bien, Robert Lacoste, finalement, s'en va après avoir présidé une dernière cérémonie patriotique le 8 mai à Alger. Mmh. Donc le 8 mai, c'est l'anniversaire de la victoire de 1945, mais c'est un 8 mai qui s'annonce donc dans une situation politique extrêmement tendue, et un avenir de l'Algérie extrêmement incertain.
Et cinq jours après, donc, il y a la manifestation du 13 mai, cet hommage rendu au monument aux morts aux trois soldats français, donc exécutés par le FLN, et c'est à ce moment-là qu'un des manifestants, Pierre Lagaillarde, demande à la foule de s'emparer du gouvernement général.
Au micro, Philippe Bernier qui vous parle d'Alger, RTF. Je redescends il y a quelques instants de ce qu'on appelle ici le GG, et qui est le ministère de l'Algérie, le gouvernement général. Vous le savez, la foule en a pris possession vers 18h30. Quelques instants après, le GG était occupé. On voyait flotter des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres, et de toutes les fenêtres se déversaient des quantités de papier, toutes les archives du ministère de l'Algérie. Et nous avions la chance de pouvoir recueillir les premiers mots de la déclaration du général Massu.
Pour saluer la mémoire de nos trois camarades, victimes de la barbarie de FLN. Nous vous demandons de rester dans le calme en attendant les résultats de Paris.
Nous vous demandons de rester dans le calme en attendant les résultats de Paris. Quels sont les résultats? La Marseillaise s'élève de nouveau, c'est la 20e, la 30e fois qu'on la chante. Depuis le début de cette journée qui sera certainement historique, nous avons tous conscience d'avoir vécu là des minutes très graves et très importantes. Faute de pouvoir enregistrer plus longtemps, je vais être contraint de laisser cette foule face à face avec son destin, et je vais regagner maintenant le studio.
Alors, extraordinaire ce reportage de Philippe Bernier le 13 mai 58 à Alger, parfaitement conscient de vivre, il le disait, un événement historique, la création de ce comité de salut public à la tête duquel Guy Pervillier, qui trouve-t-on ? On trouve le général Massu, c'est-à-dire un personnage extraordinairement populaire à Alger à ce moment-là, en tout cas auprès des Pieds Noirs, et qui prend la tête au fond de ce mouvement. Alors il prétend vouloir l'endiguer en prenant la tête, mais en réalité c'est un militaire, c'est pas un Pied Noir, et là il se dresse contre le pouvoir parisien, Guy Pervillier.
Oui, enfin, le général Massu n'est pas un Français d'Algérie, mais il est très populaire à Alger depuis qu'il a mené donc, ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Donc il a été chargé en janvier 57 de...
Très populaire auprès des Algérois,
oui,
pas du FLN, bien sûr.
Évidemment, bien sûr, pas auprès du FLN, mais malgré tout, il n'est pas certain que la totalité des Algériens musulmans lui soit aussi hostile qu'on l'a parfois prétendu. Disons qu'il a quand même, de façon très vraisemblable, une grande popularité auprès de la majorité des habitants d'Alger, parce que sa division de parachutistes a brisé le terrorisme du FLN qui faisait exploser des bombes dans des lieux publics et avec des effets de plus en plus dévastateurs, et sans qu'il soit nécessairement cantonné aux Français d'Algérie. Parce que quand une bombe explose dans un lieu public très fréquenté, elle ne choisit pas ses victimes.
Alors, il a cette particularité, Guy Pervillier, c'est que, contrairement à beaucoup d'officiers qui se trouvent alors en Algérie, il est gaulliste. Or, il y a très peu de gaullistes en Algérie, et il y a quelques-uns, quand même, dont Léon Delbecq, un petit groupe qui se trouve là, avec Lucien Neuwirth, qui se dit, tiens, cette manifestation, on peut en profiter pour ramener le général de Gaulle au pouvoir. Parce que le 13 mai, le 14 mai, ben personne ne prononce le nom du général de Gaulle. Il a quitté le pouvoir depuis déjà 12 ans, vous l'avez rappelé.
Oui, enfin malgré tout, à partir du moment où le général Massu accepte d'être la tête du comité de salut public, il est en effet entouré par Léon Delbecq et Lucien Neuwirth, qui font partie d'une antenne du ministère de la Défense nationale qui a été créée quelques mois plus tôt par le ministre Jacques Chaban-Delmas, bien connu ici à Bordeaux, et qui était aussi un gaulliste. Alors, il est vrai que le général Massu n'était pas au courant, d'abord des différents complots très, très divers et nombreux, qui envisageaient depuis des mois, disons, une prise du pouvoir, ou en tout cas le renversement du régime de la 4e République. Alors, il faut en particulier se souvenir que les Français d'Algérie étaient écartés de la vie politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Edgar Faure en décembre 1955, dissolution qui a entraîné donc des élections générales, mais ces élections n'ont pas eu lieu en Algérie à cause des menaces du FLN contre tous ceux qui participeraient à ces élections.
Mais ces Français d'Algérie ne sont pas très gaullistes. Hein. Pendant la guerre, ils étaient plutôt giraudistes, comme on dit. Ils ne sont pas tellement pour le général de Gaulle. Pas plus d'ailleurs que le chef de Massu. Massu commande la région d'Alger, mais au-dessus de lui, il y a le général Salan, qui lui non plus n'est pas très gaulliste. Or, c'est lui qui va quand même faire basculer les choses quelques jours plus tard, le 15 mai, Guy Pervillier. Mais
oui,
Salan n'est pas très gaulliste.
Oui, c'est exact. Enfin, je pense qu'il faut distinguer les étapes. Enfin, donc, au départ, il y a donc un complot, toute une série de complots dont le principal a été mené, vous l'avez dit, par Pierre Lagaillarde et un certain nombre de leaders donc, qu'on appelait le groupe des Sept. Donc des hommes qui étaient considérés comme plutôt d'extrême droite, ce qui était largement vrai, mais s'expliquait aussi en partie par cette situation très particulière de l'Algérie qui était totalement exclue, je l'ai dit, de la vie politique régulière depuis janvier 1956. Et puis le général Massu, lui, homme très populaire étant donné son rôle dans la bataille d'Alger, était en effet un général gaulliste et il ne semble pas qu'il ait été partie prenante de ces complots organisés par le groupe des Sept et beaucoup d'autres personnes. Et en effet, au-dessus, il y avait le commandant en chef de l'armée d'Algérie, donc en poste depuis décembre 1956, à savoir le général Salan, qui lui n'était pas du tout gaulliste, contrairement à Massu. Alors disons que Massu, néanmoins, n'ayant pas prémédité ce qui lui est arrivé, donc s'est laissé entraîner le premier à prendre la tête de ce comité de salut public pour mettre fin à ce désordre qui avait complètement saccagé le gouvernement général et pour essayer de trouver une solution politique. Et il a été très réceptif, justement, à ces gaullistes qui essayaient de canaliser le mouvement pour servir au retour de Gaulle, à savoir Léon Delbecq, Lucien Neuwirth et quelques autres.
Alors Léon Delbecq, qui justement, deux jours après la prise du gouvernement général, eh bien, va pousser le général Salan à faire appel au général de Gaulle. Personne, encore une fois, n'avait entendu ou n'avait parlé de lui avant ce jour du 15 mai, lorsque, du haut du gouvernement général, Salan s'adressait au pied noir d'Alger. Delbecq profitait alors de l'émotion du commandant en chef de Salan pour lui faire prononcer le nom qui allait faire de la révolte d'Alger une révolution. Jacques Rozeau, un des organisateurs du 13 mai 58, se trouvait alors à côté de Salan et de Léon Delbecq.
Le général Salan arrive, prononce son allocution, pour bien dire aux Français d'Algérie qu'il est là pour aller jusqu'au bout et pour sauver l'Algérie française. Et il termine son allocution en disant « Vive la République, vive l'Algérie française et vive la France ». Et au moment même où il fait demi-tour, Léon Delbecq profite de ce moment pour le prendre par le bras et lui dire, et ça je suis à côté, je l'entends comme si c'était aujourd'hui, et lui dire, et vive de Gaulle, mon général, et vive de Gaulle.
Certains ont dit, il lui a mis un revolver dans le dos, d'autres, il l'a attrapé, il lui a serré.
Léon Delbecq.
Non, je l'attrape gentiment par le bras et je glisse dans son oreille, mais dites vive de Gaulle.
Et Salan, qui est un militaire plein de sincérité, croyant que c'est simplement un hommage à un général historique qu'il va rendre, il se retourne vers la foule qui est là et il hurle « Et vive le général de Gaulle !» Et la foule applaudit à tout rompre, mais il y a là, à côté de nous, des centaines de journalistes, non seulement de France, mais du monde entier, qui vont reprendre immédiatement le général Salan vient d'en appeler au général de Gaulle.
Ici Alger RTF. Ce matin, une foule estimée à environ 5000 personnes s'est rassemblée sur le forum face au ministère de l'Algérie afin d'entendre une déclaration du général Salan. Ce dernier a notamment affirmé, dans sa conclusion, « Je crie vive la France, vive l'Algérie française, vive le général de Gaulle. »
Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant. Nous sommes tous présents, tête brûlée d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit. Dire, dire, non, la lettre, dire, dire, non, la langue, avec l'Algérie française, avec la tuée talent. Dire, dire, non, la lettre, dire, dire, non, la langue, avec l'Algérie française, avec la tuée talent.
Et c'était une chanson des Pieds Noirs peu de temps après ce 15 mai 1958, plus important encore que le 13 mai, deux jours plus tôt, parce que là, eh bien, on fait appel à De Gaulle. À partir d'Alger, les Pieds Noirs, encouragés par Salan, font appel à De Gaulle. Et là, De Gaulle, d'ailleurs, le soir même, Guy Pervillet, envoie un communiqué dans lequel il se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. C'est un basculement, c'est ça qui allait faire de la révolte d'Alger du 13 mai une révolution.
Oui, c'est exact, mais ce n'est pas tout à fait exact, car en fait, il avait déjà été question à de nombreuses reprises de Gaulle, puisque le général Massu donc, était tout prêt à accepter cette idée, et Delbecq et Neuwirth lui ont suggéré immédiatement, à tel point que le général Salan lui-même, donc, qui a décidé de prendre tous les pouvoirs légaux et du coup d'effacer le pouvoir civil, puisque Lacoste n'était pas là. Donc le général Salan a téléphoné le soir même du 13 mai au général Elly, chef d'état-major général, en lui disant « La population demande à tout prix la formation d'un gouvernement de salut public autour du général de Gaulle oui. ». Donc en fait, dès le début, la solution gaullienne a été proposée, même si elle n'était évidemment pas celle que souhaitait profondément Pierre Lagaillarde et ses amis.
D'autant plus qu'à Paris, on se méfie du général de Gaulle. Le pouvoir politique en place, il y a eu ce gouvernement Pflimlin qui a été investi dans la soirée du 13 mai, mais il y a le Parlement qui se méfie du général de Gaulle. On s'inquiète un peu, on se dit, est-ce que cet homme appelé par un mouvement à Alger va respecter les pouvoirs de la République ? D'ailleurs, de Gaulle précise bien à ses forces de rassurer les esprits. Le 19 mai, il fait une conférence de presse dans laquelle il affirme vouloir respecter justement les principes républicains, Guy Pervillet.
En effet, et aussi bien donc dans sa déclaration du 15 mai, qui était sa réponse immédiate à l'appel du général Salan, ou en effet dans la conférence de presse qu'il a faite le 19 mai, il s'est présenté en arbitre et il a refusé de se prononcer sur le fond du désaccord entre Alger et Paris, mais il a évoqué l'image très nette d'un arbitre en disant que dirait-on d'un arbitre qui rendrait sa sentence avant que son arbitrage soit sollicité et sans avoir les moyens de le faire appliquer.
Il y a une chose quand même qui inquiète beaucoup, c'est un plan de débarquement de l'armée d'Algérie en France qu'on appelait le plan Résurrection, qui était un plan concret, réel. On a même parlé de coup d'État ou de tentative de coup d'État qui aurait permis à De Gaulle d'arriver au pouvoir, d'autant plus que De Gaulle n'a jamais voulu désavouer ce projet de débarquement en France, Guy Pervillers.
Oui, alors en effet, c'est un sujet qui est resté très délicat et en particulier, on a beaucoup de mal à avoir des confirmations précises de la part, du général de Gaulle, de toute façon il est mort, mais il avait toujours dit qu'il n'était pour rien dans ce qui se passait, il ne voulait rien savoir de ce qui se passait.
Mais c'est l'armée uniquement qui avait prévu ce plan alors
Pas seulement, parce qu'il est certain aussi qu'un certain nombre de gaullistes de son entourage, donc non seulement Léon Delbecq, Lucien De Wirt sur place à Alger, mais également Jacques Soustelle, qui était un ancien gouverneur général de l'Algérie et en même temps un ancien dirigeant du RPF, le Rassemblement du Peuple Français Gaulliste. Jacques Soustelle avait réussi à rejoindre Alger dès le 17 mai. Et d'autre part, il était aussi devenu un ami du directeur de l'Écho d'Alger, Alain de Sérigny. Et justement, avant même le 13 mai, le 11 mai, Alain de Sérigny avait lancé un appel au général de Gaulle. « Parlez, parlez vite, mon général, vos paroles seront une action. » Donc il y avait au moins ces gaullistes-là dans le coup, mais aussi des proches du général de Gaulle à Paris, en France, tels que notamment Jacques Focard, Olivier Guichard, et aussi Michel Debré au Sénat. Donc tous ces leaders gaullistes de premier plan ont sans aucun doute fait quelque chose, même s'ils ont répugné à dire précisément ce qu'ils avaient fait.
En tout cas, on s'inquiète, le gouvernement Plimelin refuse de démissionner, la situation reste bloquée jusqu'à ce que le 29 mai, le président de la République, René Coty, demande au général de Gaulle de former un gouvernement.
Le message capital adressé par M. René Coty au Parlement désignait enfin de Gaulle comme le seul arbitre possible de la situation. Le président de la République faisait appel à l'homme qui, quelques jours auparavant, avait, dans une conférence de presse retentissante, précisé sans équivoque sa position.
Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales ?
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter ? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Il n'était plus douteux maintenant que le gouvernement de Gaulle se constituerait et qu'il se constituerait dans la légalité et le respect des lois fondamentales de la République. Ce résultat remarquable était dû aux patients efforts, à la clairvoyance et à l'esprit de décision du président René Coty.
Et c'était le 29 mai 58, l'appel de René Coty au général de Gaulle, qui le 1er juin devenait le dernier chef de gouvernement de la 4e République, avec les pleins pouvoirs que de Gaulle avait demandé, non seulement pour résoudre la crise algérienne, mais aussi pour changer la Constitution. Guy Pervillers, la priorité pour De Gaulle, ce n'était pas la guerre d'Algérie, ce n'était même pas la crise du 13 mai, c'était de changer la Constitution de la France, c'est-à-dire passer la 4e à la 5e République.
Oui, sans aucun doute, mais en même temps, il ne pouvait pas pour autant se désintéresser du problème algérien. D'autant plus que, pour revenir très rapidement sur ce qui a été dit, il est certain que De Gaulle a réussi à revenir au pouvoir en se présentant comme un arbitre, le seul capable d'éviter une guerre civile entre Français. Et c'est pourquoi d'ailleurs aussi le chef du gouvernement légal, Pierre Plimelin, a fini par démissionner, parce que pour lui, la seule alternative, c'était de faire un gouvernement de front populaire avec les communistes, provoquer du coup une guerre civile avec l'intervention des militaires, car il est vrai qu'il y avait eu différents mouvements plus ou moins téléguidés d'Alger, d'abord en Corse, donc la Corse qui s'était détachée du gouvernement légal en rejoignant Alger, et ensuite, en effet, ce plan résurrection dont vous avez parlé, dont il est difficile d'avoir effectivement pleine confirmation de la part des responsables gaullistes. Oui. Mais il est vrai que un journaliste, Christophe Nick, a publié récemment un livre, enfin il y a quelques années, un livre là-dessus, intitulé « Un coup d'État démocratique ». Il y a quand même quelques arguments dans ce sens.
En tout cas, il arrive au pouvoir, il forme un gouvernement, et puis tout de suite, il se rend à Alger. Bien sûr, il faut y ramener le calme. Et c'est là qu'il allait prononcer un de ses discours les plus célèbres, du haut du gouvernement général, d'où il avait été appelé quelques jours plus tôt. C'était le 4 juin 1958, et pour éviter de prononcer les mots « Vive l'Algérie française » qu'attendaient de lui tous les pieds noirs, eh bien De Gaulle préférait cette formule plus ambiguë, qui lui permettait de se faire acclamer par la foule sans avoir à s'engager sur l'avenir qu'il réservait à l'Algérie.
Je vous ai compris ! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière.
Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici, on connaît ce discours. Personne ne savait ce qu'il allait faire de l'Algérie. Est-ce qu'il le savait lui-même? Parce qu'il ne dit pas « Vive l'Algérie française », mais il le dira deux jours plus tard à Mostaganem. Est-ce que c'était de la duplicité ou est-ce qu'il ne voulait pas s'engager dans la voie qui sera la sienne, c'est-à-dire vers l'indépendance algérienne, Guy Pervillet?
C'est plutôt de la duplicité, car De Gaulle savait très bien ce qu'il jugeait impossible, c'est-à-dire le maintien de l'Algérie française qui rendait nécessaire l'intégration de l'Algérie dans la plus grande France comme une province française. Or, cela, De Gaulle avait réfléchi depuis de longues années et au moins depuis 1955, de nombreux témoignages donnent la certitude qu'effectivement, il ne croyait pas cela possible. De Gaulle a réussi en effet dans ce discours un chef-d'œuvre d'ambiguïté, puisque tous ceux qui l'ont voulu y ont vu la confirmation du caractère français de l'Algérie sous la forme de l'octroi de tous les droits politiques à égalité entre tous les habitants européens et musulmans. Mais en fait, De Gaulle a profité de cela pour ne pas employer l'expression Algérie française, qu'il a néanmoins employé deux jours après à Mostaganem. Mais le fait est que De Gaulle n'a jamais voulu employer le mot « intégration » qui était le principal slogan des hommes du 13 mai et de Jacques Soustelle.
Merci Guy Pervillet. Malheureusement, cette émission se termine. Et en tout cas, il a mis en place un nouveau régime dans lequel nous nous trouvons. Et depuis le 13 mai 1958, ce sera la 5e République mise en place en septembre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la guerre d'Algérie, dont le plus récent, « La guerre d'Algérie, histoire et mémoire », vient de paraître aux éditions du CRDP d'Aquitaine dans la collection « Histoire de notre temps », un livre accompagné d'un CD-ROM. Vous êtes également l'auteur d'un « Que sais-je » sur la guerre d'Algérie, édité au PUF. Et à lire aussi de Michel Vinocq, 1958, « La naissance de la Ve République », qui vient de sortir dans la collection « Gallimard découverte ». Et puis entendre des témoignages extraits de « L'histoire en direct », diffusé sur France Culture en juin 1988, ainsi qu'une archive pâtée de 1958. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pierrick Monsigny, Gilles Gaillard et à France Bleu Gironde à Bordeaux avec Alain Fournier. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Nathalie Piollet, Claire Destacan et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un autre anniversaire, 60 ans après, jour pour jour, la création de l'État d'Israël.